suis présenté rapidement. Donc, moi, j'ai une formation d'ingénieur qui a dérivé assez lentement vers la finance. Et d'ailleurs, ce passage d'ingénieur m'autorise à rajouter un petit point sur ce qui a été dit dans la première session concernant les concentrations de tours à certains endroits et pas à d'autres. Il y a un facteur qu'on n'a pas évoqué, là, qui est le contexte géologique. Et effectivement, c'est moins vrai maintenant parce qu'on peut construire n'importe quoi, un peu n'importe où technologiquement. Mais New York, par exemple, est fondée sur une sorte de miracle géologique. C'est construit sur un massif de granit non fissuré qu'on ne retrouve pas partout. De la même manière, San Francisco, par exemple, même si c'est plus facile maintenant, c'est difficile de construire des tours dans un environnement sismique comme celui-là. Ça, c'est un aspect qui compte moins maintenant, mais qui historiquement explique certaines situations. Je voulais, on aura l'occasion de revenir sur certains points, mais juste là, Lou aussi, un petit bémol. Tu disais que finalement, quelqu'un qui avait réussi à obtenir un financement canon et qui n'avait plus que 2-3 centimes investis dans son opération, était tenté de le laisser dans l'opération parce que ça lui rapportait proportionnellement un revenu considérable. En réalité, un bon investisseur va toujours penser non pas à l'argent qu'il a investi dans l'opération, mais à l'argent qu'il pourrait retirer de sa vente. Donc il va toujours faire le ratio de mon prix de vente divisé par mon prix de vente potentiel et ce que ça me rapporte en loyer aujourd'hui. Donc ça change un petit peu la perspective. Et c'est pour ça que finalement, il y a rarement des promoteurs qui restent assis sur leur tas d'or en se contentant d'encaisser leur loyer. Plus le tropisme du promoteur qui est comme avant tout un entrepreneur. Je pense que je ne peux pas démarrer cette... rassurez-vous, on ne va pas parler de tout ça, mais grosso modo, je vais vous parler de l'environnement dans lequel nous sommes, financiers. Beaucoup de gens ont dû entendre pas mal de choses sur le sujet. Je vais essayer d'être bref et d'apporter un éclairage peut-être plus bancaire sur la crise que nous vivons et ses impacts sur l'immobilier et le financement de l'immobilier. Un peu plus tard, je voudrais approcher l'univers du financement de l'immobilier sous un angle un peu psychologique, voire psychanalytique, on va voir ça un petit peu plus loin. Et puis, ce qui n'empêchera pas qu'il y aura malheureusement pas mal de chiffres. Et puis, je pense qu'on aura, on se promènera à l'intérieur d'un schéma de soumission de crédit, la façon dont ça se passe réellement dans la vie. Credit submission, absolument, c'est effectivement bien. Donc effectivement, la crise, vous avez eu tous ces manchettes de journaux, tout est aussi effrayant que les autres. Cette présentation a été préparée au mois de juin. On prend tout ce qui est écrit là, on multiplie par 1,5 et on a à peu près la réalité, en particulier pour ces chiffres-là. C'est intéressant de mettre en perspective déjà par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Prenez 87, qui était une tourmente épouvantable avec les programmes de trading qui se sont emballés et qui ont fait en une journée une chute considérable de tous les marchés boursiers. Vous voyez que là, on considérait au mois de juin dernier qu'il faudrait 10 trimestres de revenus pour arriver à rattraper ce qui a été perdu en provision au cours de cette année. Hein. Donc c'est effectivement assez considérable. Là aussi, des chiffres qu'on peut maintenant multiplier par 1,5 voire 2 sur les write-down des banques. Alors, vous voyez des chiffres fabuleux comme effectivement Citibank, 40 milliards d'euros de provisions ou de pertes. Une partie de ces montants sont de véritables pertes. On a vendu, on a perdu par rapport à ce qu'on avait acheté. On vend des crédits comme on vend des immeubles, hein, bien sûr. Et puis une partie de ces pertes sont en fait des write-down, c'est-à-dire des dépréciations qui sont faites sur la base de ce qu'on appelle le mark-to-market. C'est-à-dire, vous entendrez souvent parler de ça dans la presse, mais l'obligation de réévaluer constamment ses actifs, même financiers, en fonction du marché de la dette bancaire qui lui-même n'existe pas et qui lui-même est dévasté en ce moment et qui contribue à faire créer ces write-downs de façon considérable. Donc, il faut prendre avec pas mal de pincettes ces chiffres-là. Puisqu'on est sur les banques et le bilan des banques, pour expliquer aussi le traumatisme que subit la profession bancaire en ce moment, qu'on peut prendre simplement le chiffre, moi j'ai des chiffres que je connais bien, qui s'appliquent à toutes les banques. Prenez le bilan de Royal Bank of Scotland, c'est 2000 milliards. Donc 2000 milliards d'actifs qui sont souvent des prêts, l'argent qu'on a emprunté et le même argent qu'on a prêté. Le fonds propre de Royal Bank of Scotland, c'est 50 milliards d'euros. C'est d'ailleurs parfaitement dans la norme, on retrouve la même chose chez BNP Paribas. 2000 milliards d'un côté, 50 milliards. Ces 50 milliards, ils sont réduits à néant, c'est-à-dire à zéro, par un simple basculement de votre bilan de 2,5%. Hop, 2,5% à gauche, on est mort, à droite, on est les rois du pétrole. Donc c'est quand même assez effrayant. On pourrait dire, mais comment se fait-il que les banques sont aussi fragiles? En réalité, l'hypothèse sous-jacente de ça, c'est qu'il y a une telle diversité dans les crédits qui sont consentis, dans les ressources des banques, qu'on n'a pas un mouvement systématique de gauche à droite, mais une espèce de mouvement brownien, une vibration, qui fait que finalement on vibre autour d'un point central et que rien de grave ne se passe. Aujourd'hui, effectivement, la menace du risque systémique, qui prend des mots différents, des expressions différentes, la dépression, la récession, crée dans l'esprit des gens un scénario possible de basculement de 2 ou 3% de cette énorme masse que constitue le bilan d'une banque. Et ça s'applique absolument à tout le monde. Et ça explique d'ailleurs pourquoi la market capitalisation, enfin, le poids boursier de RBS aujourd'hui, fait 10 milliards d'euros, alors que les fonds propres font 50 milliards, et 10 milliards, ça représente les profits qui ont été faits en 2007. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une banque comme RBS s'achète avec un PER de 1, alors que pas mal de sociétés s'achètent avec des PER de 50.
PER, c'est le revenu.
Oui, price earning ratio. Donc on fait l'hypothèse qu'effectivement, la banque ne vaut plus qu'une année de ses profits. Voilà, c'était plutôt une parenthèse qu'autre chose, mais ça explique un peu ça accentue la paranoïa dont je vais vous parler un peu plus tard, qui est le mode de fonctionnement normal du banquier compétent.
Ce que ça veut dire en fait, c'est que même si la banque avait beaucoup de fonds propres et était très riche, elle a pris des positions et des positions à risque sur un montant et un volume d'activité bien bien plus important. Et pour revenir à nos préoccupations qui sont les nôtres, c'est pas spécialement en finançant des terrains ou de l'aménagement, c'est souvent en investissant sur des produits qui peuvent être par exemple des produits dérivés, sont donc des choses qui sont pas plus des produits de couverture, donc qui servent à couvrir des risques que des produits vraiment réels. Et la part de l'investissement fait dans ces produits par rapport à l'investissement fait dans le monde réel, que ce soit des actifs ou des sociétés, est énorme.
C'est énorme, mais c'est un sujet très important sur lequel progressivement, on va voir les gens s'exprimer avec de plus en plus de clarté, mais la financiarisation de l'économie devrait représenter un rapport de 1 à 50, de 1 à 100, c'est-à-dire que sans opération spéculative qui permette à une personne de faire une opération industrielle en toute sécurité, c'est la norme. Aujourd'hui, c'est pas 100, c'est 1000, voire 10 000. Donc on est devenu, ça a vraiment, c'est probablement un des reproches qu'on peut faire à l'industrie de la finance. L'immobilier là-dedans est relativement immune parce que, effectivement, à part les produits, les dérivés immobiliers qui sont apparus en Angleterre il y a peut-être 3 ans, on n'a pas fait grand-chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est un rappel. Je pense que ces slides, on va les donner, enfin, elles seront disponibles. Donc, je vais passer rapidement, mais grosso modo, là, vous voyez les explications que vous avez tous entendues. Un crédit relativement pas cher, facilement accordé, en particulier aux États-Unis, une créativité financière de plus en plus développée, et puis d'un seul coup, un basculement de la situation, des taux d'intérêt un petit peu plus élevés parce que des craintes sur l'inflation, des défauts bien sûr en conséquence. On oublie d'écrire là, mais une certaine porosité entre les différents systèmes financiers qui ont créé des effets de cascade. Et donc, effectivement, vous avez toujours le phénomène de la. Tous les actifs immobiliers mis sur le marché en même temps, dans ce petit sous-secteur de l'immobilier résidentiel aux États-Unis, qui crée un effet d'emballement et d'entraînement. Donc, nous, ce qui était autrefois considéré comme des qualités, des vertus, sont devenus, en fait, les vices qui ont précipité le mouvement. Et donc, effectivement, aujourd'hui, si on a toujours dit que les banquiers n'aimaient pas le risque, mais alors là, ils n'aiment plus du tout.
Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que vous prenez l'exemple d'un fonds d'investissement immobilier comme Carlyle, qui est un très gros fonds immobilier qui gère des milliards de dollars d'argent déjà investi et qu'on a encore d'autres sous la main à investir. Aujourd'hui, en Europe, ils n'arrivent pas à se financer. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'argent pour faire leurs opérations. Alors imaginez-vous, à votre niveau, qui voulait financer une médiathèque, vous êtes un peu mal, quoi. Les banquiers sont toujours là, mais ils ont fait plein de bêtises avec l'argent et ils ne l'ont plus, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, ouais, ce qu'on est en train de dire.
On peut dire ça, à peu près. Et malgré les déclarations, il faut dire que les marchés sont quand même encore bien fermés, quoi. Donc, ouais, j'ai bien cette petite slide où on a le pauvre petit...
Ça, c'est la maison que le monsieur voulait acheter tout à l'heure. C'est celle qui est en haut du truc, là.
Il ne s'est pas rendu compte des responsabilités qu'il assumait de cette manière. Moi, j'ai retiré, au mois de juin, j'ai retiré tout ce que j'avais en action. Finalement, en lisant les papiers, il faut lire quand même. Il faut lire. Quand on lit les bons papiers, on sait ce qui va se passer. Hein. Et en ce moment, effectivement, le CAC 40, il faut y renoncer pour quelques temps.
Vous voulez qu'on vous fasse un petit raccourci sur les subprimes pour vous mettre ça un peu au clair dans l'esprit ou pas?
Ouais.
Bon, je vais vous faire ça assez simplement. Ça part, et en essayant de lier ça un peu à nos préoccupations, ça part pour partie d'une volonté de mixité, pas sociale, mais une mixité dans l'accès à la propriété aux États-Unis. Et notamment de lois aux États-Unis qui ont essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination dans l'accès au crédit et qu'il y ait une forte incitation des prêteurs locaux à financer des nouvelles accès là. Sachant que, parallèlement, ceci s'est passé dans un univers du secteur bancaire qui, et c'est toujours facile de le dire après, rétrospectivement, a montré au moins deux faiblesses. La première, c'est que lorsque massivement les prêteurs n'ont plus porté sur leur propre bilan les prêts qu'ils faisaient, mais les ont mis dans des gros paniers, les ont réunis ensemble et les ont filés à quelqu'un d'autre en les vendant, donc ils sont passés d'un métier qui était « j'analyse un dossier de prêt, je décide de financer, et si je le finance, je le garde chez moi », un métier où ils originaient les prêts pour les distribuer, pour les vendre derrière. Donc ils ont migré vers une activité de production de prêts qu'ils avaient immédiatement cédé, donc ils ne portaient peu le risque. Donc ils avaient peut-être une moindre incitation à être exigeants dans le prêt, puisqu'ils savaient qu'ils allaient le vendre derrière. Et parallèlement, derrière, on a eu un tel afflux d'argent que de toute façon ce marché existait, et que donc ces prêts étaient cédés, et qu'il y avait même des gens qui voulaient en acheter plus, et donc on a eu un volume. Donc il y a eu cette première... ce premier élément. Et le deuxième élément, c'est que le système de titrisation aux États-Unis, depuis les années 30, est garanti par l'équivalent de caisse, si vous voulez. Il y a Freddie Mac, Fannie Mae, Ginnie Mae, il y en a plusieurs, qui font qu'en gros, il y a une espèce de compensation générale qui existe et qui fait que si vraiment il y a un défaut, on aura toujours une espèce d'assurance collective qui viendra couvrir tout ça. Donc, si on revient au niveau de l'emprunteur, en gros, on a réussi à rendre solvables des gens qui ne l'étaient pas, notamment en faisant des crédits très longs, notamment en faisant des crédits avec, à l'origine, des taux d'intérêt variables, mais avec une franchise d'intérêt. C'est-à-dire quand vous pouvez très bien emprunter 200 000 dollars, alors que votre maison ne coûte pas loin de 200 000 dollars, il vaut mieux parce que vous n'avez pas de fonds propres, et vous le payez pendant les deux premières années 1%. Donc vous avez un amortissement négatif, c'est-à-dire que votre prêt augmente dans les premières années puisque vous ne payez pas vraiment tous les intérêts. Et simplement après la deuxième année que vous payez vraiment les intérêts, et comme ils sont variables, si les taux augmentent, comme l'a dit Marc, là vous êtes vraiment... Votre charge de la dette, elle n'est pas graduellement augmentée, elle peut être multipliée par 3, par 4, par 5, c'est énorme. Donc massivement des gens ont acheté, et à ce stade... il s'est passé un autre phénomène, c'est que la façon d'apprécier les risques pour les banquiers n'était plus de considérer est-ce que l'actif avait une certaine valeur, ou est-ce que on allait avoir des flux, est-ce que le type, etc. Mais simplement de considérer le risque de défaut. Et donc de voir si en gros il y a une chance que le type à qui j'ai prêté soit défaillant. Et comme ces prêts ont été mutualisés dans des pools, et qu'au lieu d'avoir un prêt, il y avait un panier dans lequel il y avait 1000 prêts, l'autre élément qui a rendu le système instable, était de considérer que on avait une vraie granulométrie. C'est-à-dire qu'en fait, le risque n'était pas est-ce qu'un emprunteur d'habitation va être en défaut, mais est-ce que monsieur Machin, qui est plombier, va être en défaut en même temps que monsieur Truc, qui est charcutier, ou monsieur Machin, qui est rentier, ou l'autre qui a quatre enfants, l'autre qui a d'enfants. Il a été considéré que tout ça était des niveaux de risque de défaut complètement différents. Et donc, on a réussi à mettre massivement des prêts fait à des gens qui étaient très très risqués, dont le rating était plutôt très mauvais, triple B on va dire, et ces paniers de prêts, on les a revendus derrière à d'autres gens qui eux-mêmes les ont achetés en empruntant de l'argent, et avec une première tranche qui était soi-disant très très sécurisée, parce que là on pensait que ça allait jamais être en défaut, qui était en gros triple A, comme un bon du Trésor, une autre tranche qui l'était un peu moins, etc. Et quand on regardait ce qui se passait, on n'avait aucune raison de se faire peur, puisque la façon d'apprécier le risque était de regarder est-ce que dans l'histoire, il y a eu des défauts. Et les emprunteurs n'étaient jamais défaillants. En 2001, 2002, 2003, 2004, les emprunteurs n'étaient pas défaillants. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une telle expansion des valeurs immobilières, puisque comme il y avait beaucoup de crédits, les gens voulaient acheter, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc les prix montaient, donc il y avait une telle expansion des valeurs immobilières, que le type, même s'il ne pouvait plus payer les intérêts, il revendait sa maison, ou il relevait de la dette, et comme la valeur avait monté, il pouvait le faire. Donc on n'a jamais eu de cas de défaut. Et ce qui a vraiment déclenché le système a été la survenance de vrais cas de défaut, à la fois parce que les taux ont monté et que les gens sont passés à la phase où ils payaient vraiment les taux, et où aussi on a continué à financer des maisons sur des prix de plus en plus chers, et alors même que le marché était en train de se retourner. Et après, ce qui s'est passé de très très violent, c'est que le sous-jacent, hein, qui est une maison aux États-Unis, il ne faut pas l'imaginer comme la maison que monsieur veut acheter. Une maison aux États-Unis, c'est quoi ? C'est un lotissement dans lequel on a construit une maison en structure ossature bois et avec des trucs autour. Et le lotissement, il est sûrement, je ne sais pas si c'est du périurbain ou pas du périurbain, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'en général, toutes les maisons sont vides. Le pauvre type qui arrive juste encore à payer son crédit et qui est encore très bien, il ne veut même plus y habiter puisque le lotissement est désert. Donc les valeurs, elles ne sont pas altérées à les marges, elles peuvent être quasiment réduites à zéro parce que le foncier veut que dalle à cet endroit-là et que la seule valeur c'est la maison et que la maison a tellement été inoccupée qu'elle est endommagée, elle n'est même pas revendable et il n'y a pas de marché. Donc le sous-jacent, la décroissance n'est pas marginale, donc on a des vraiment de risque. Et en plus, il y a eu tellement de couches intermédiaires de levier parce qu'on a mis des prêts dans un véhicule qui lui-même a été acheté avec des gens qui ont mis des prêts, et même les prêts qui ont été faits aux gens qui ont acheté avec de la dette ces véhicules, ces prêts-là ont aussi été mis dans des véhicules qu'on appelle les CDO, qui eux-mêmes ont été achetés par des gens qui ont mis de l'argent pour emprunter pour acheter. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, le rouge, il disparaît très vite, c'est-à-dire que vos fonds propres, ils disparaissent très vite. Mais en fait, là, il y avait très très peu de rouge, il n'y avait que de la dette, mais ça disparaît tout aussi vite parce qu'en fait, le sous-jacent, lui, la valeur baisse très très vite. Et donc, on arrive à une situation où on a, sur une maison qui vaut 200 000, on a peut-être construit, je ne sais pas combien d'instruments financiers. Alors, c'est un peu plus complexe que ça parce que les agences de notation ont validé que c'était du triple A et que tout allait bien se passer. Comme ça ne suffisait pas, on a eu des sociétés qu'on appelle des monolines qui ont payé des garanties pour éventuellement mettre de l'argent si l'emprunteur était défaillant. Donc on a vraiment produit des produits financiers qui étaient supposément viables. Mais la dégringolade a été telle que même les gens qui assuraient, donc les gens qui étaient monolines, qui assuraient les crédits étaient en faillite. Les caisses de compensation Fannie Mae, Freddie Mac étaient en faillite, donc il n'y avait plus de garantie. Donc ce qui était censé être du triple A, c'était du, je sais pas quoi, du triple B, voire pire. Et donc il n'y avait plus rien derrière. Et on arrive à une situation où, de façon macroéconomique, très très important, on a des pertes qui sont irrémédiables. Et on est en train de passer ces pertes-là. Et donc du coup, et comme ces produits, toutes ces différentes couches de financement ont servi comme élément inventif de création de risque pour permettre aux gens d'espérer avoir des rendements élevés puisqu'on leur vendait des investissements à risque, que ces risques-là ont été utilisés dans les sicaves monétaires en France par exemple, pour servir parfois de produits de hedge sur les emprunts faits par des collectivités locales. Donc on s'est retrouvé avec une toxicité de ces instruments de crédit un peu partout, une défiance entre les banques, et les banques ont refusé de se prêter de l'argent entre elles puisqu'elles n'avaient pas confiance. Et comme une partie fondamentale du marché de prêts était liée aux compensations et en gros aux échanges entre banques, le système s'est complètement arrêté. On arrive à une situation aujourd'hui où il n'y a plus du tout d'argent.
Et quel aurait été le coût d'une intervention en amont de l'État ou des banques pour rééchelonner les prêts ou ramener les prêts variables à des prêts à taux fixe sur l'ensemble avant que ces quartiers deviennent sans valeur ?
Oui, certainement moins que.
Qui est très vraisemblablement inférieur et jamais personne dans le débat public ne l'a envisagé.
À vrai dire, les États-Unis fonctionnent sur un mode, comme on l'entend maintenant beaucoup en télévision, complètement différent du nôtre. Donc la non-intervention est un principe de base et au petit pied, c'est un peu ce qui s'est produit en 29. Là, la réaction quand même a fini par arriver alors qu'elle n'était pas venue en 29. Mais c'est vrai ce que vous dites.
Ça aurait coûté moins cher, mais d'un point de vue. La forme de ces interventions aurait consisté à payer à la place d'une somme de particuliers des intérêts simplement pour protéger la collectivité d'un risque systémique. Donc c'est une décision politique qui est difficile à prendre en fait. Et c'est pour ça que ça ne s'est pas passé comme ça. Si on prend un autre exemple, on peut s'interroger sur le fait de est-ce qu'il aurait fallu ou non laisser sombrer Lehman Brothers. Et là, la décision était de laisser sombrer. Et il y avait un coût économique, mais on aurait pu décider d'investir et de racheter. Là, la décision ce qui se passe, c'est est-ce qu'on va soutenir l'industrie automobile aux États-Unis pour éviter un risque systémique ou est-ce qu'on la laisse sombrer. Et a priori, là, pour l'instant, on est en train de la laisser sombrer. Donc,
il y a une succession d'erreurs qui sont...
Je vous engage à lire deux livres. Un premier qui est fait par la Caisse des dépôts qui s'appelle le rapport moral sur l'argent, donc il y a toute une partie sur la crise des subprimes qui est assez bien écrite et qui est assez digeste, et il y a un autre document qui est la documentation française qui a été écrit par le Cercle des économistes qui s'appelle le rapport sur la crise des subprimes, dont un des rédacteurs est Patrick Artus de la Texas, et qui explique assez bien ces mécanismes et tous ces problèmes.
Mais pour trouver un plus à ça, c'est au moins ça a mis en évidence un certain nombre de fragilités du système, notamment la titrisation et les produits dérivés dont j'espère on va tirer profit.
Moi, il y a quand même une question que je me pose, c'est que le FMI a écrit un rapport qui a décrit tout ce qui est en train de se passer là. En 2005, le rapport est sorti, le milieu bancaire était au courant, ça se savait, et il y a eu un moment où la décision, il fallait... Pourquoi est-ce que ça bloque?
Est-ce que c'est un problème politique? C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, personne n'est véritablement, tout le monde connaît la situation, mais personne n'est véritablement à la barre du bateau, et c'est l'armateur il est au port, et lui, il est pas sur le
monde. Tu tapes sur Google la crise des subprimes, tu trouves de la prose qui date de 2005-2006, où les gens expliquent exactement ce qui vient de se passer, des universités, etc. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Très simplement parce que lorsqu'une crise arrive, les gens qui se font choper par la crise, c'est pas uniquement des gens qui ne savent pas qu'il y a la crise, c'est des gens qui veulent encore jouer ou profiter de la situation à un dernier moment et qui spéculent et qui se disent jusqu'ici tout va bien. T'as l'image du Titanic qui est en train de sombrer, les mecs ils dansent encore dans la salle de bal, ils voient que le plancher il penche un peu mais ils continuent de danser.
Faut aussi faire attention à un billet qui était évident. Généralement après une crise, on cherche partout les signes annonciateurs de la crise. Mais en réalité, il y avait autant de discours à l'époque disant le contraire, disant non, tout va bien. Donc, on cherche de façon un peu biaisée ces sources d'informations. On va peut-être retrouver ces sujets un peu plus loin. Mais maintenant, on retombe un petit peu sur l'immobilier. Donc, grosso modo, le rôle du financement de l'immobilier est partagé entre plusieurs types d'activités qui correspondent à plusieurs types d'activités immobilières. Donc, la promotion immobilière, je suis désolé, ces slides sont transparents, sont en anglais, mais le développement de la promotion immobilière, l'investissement. Ce qu'on appelait corporate acquisition, c'est effectivement les acquisitions de sociétés foncières par d'autres sociétés foncières. Et enfin, le corporate outsourcing, c'est-à-dire les externalisations d'actifs par les grandes entreprises industrielles qui vendent leur siège social aux investisseurs dont c'est le métier de détenir ces immeubles. Et donc, finalement, le financier, lui, regarde le monde de l'immobilier à travers, pour être un peu simple, une matrice à quatre blocs. Il se pose deux questions. Je parle là de l'investisseur traditionnel, après on parlera de ceux qui font du M&A et de l'outsourcing finance. Mais dans l'immobilier traditionnel, grosso modo, est-ce qu'on a affaire à une opération de promotion immobilière ou d'investissement? On voit vite la différence. Et puis, est-ce que c'est du spec ou est-ce que c'est du non-spec? Est-ce que c'est du en blanc ou est-ce que c'est du déjà loué? Donc, en fonction de la case dans laquelle on est, on va avoir un dialogue plus ou moins facile avec le banquier. Voilà. Pour ce qui concerne le M&A, c'est un peu plus difficile, mais je vous promène un petit peu dans le paysage. Grosso modo, la complexité provient du fait que on finance un acheteur qui va financer, qui va acheter non pas un immeuble, mais une entreprise qui elle-même détient un immeuble. Et là, toute la complicité vient du fait qu'on n'a pas le droit, l'acheteur de cette entreprise n'a pas le droit d'utiliser les immeubles détenus dans la cible pour sécuriser l'emprunt qu'il va faire pour acheter cette...